Directeur de la radio insolite, toujours à Cannes, et pour être précis, à Cannes-la-Bocca. Et oui, j'ai abandonné le palais des festivals, parce que vous savez que j'ai l'habitude de dire qu'à Cannes, au mois de mai, il n'y a pas que le festival du film. Il y a plein de choses tout autour. Et là, je suis au premier étage, dans des locaux assez sympathiques, dans le quartier de la Bastide Rouge, qui est un quartier en devenir, le futur du cinéma, du quatrième millénaire, du... 22e siècle, j'étais en train de chercher. Et là, je ne suis pas avec n'importe qui parce que je suis avec une personne inspirante et inspirée qui a un parcours assez extraordinaire et pourtant, vous la connaissez sans la connaître. Et elle a travaillé avec des gens que vous connaissez sans les connaître. C'est ça qui est assez impressionnant. Je te laisse te présenter toute seule.
Oui, bonjour Alain. Merci beaucoup encore de t'intéresser à nous. Puisqu'après Souffrance et délivrance, tu t'intéresses aussi aux Étoiles de l'ombre, notre documentaire, nos documentaires, puisque les Étoiles de l'ombre, c'est une collection où on met en valeur les personnes qui sont dans l'ombre et leur parcours. Mais c'est des gens qui ont généré tellement de talents et qui ont permis à ceux qui sont dans la lumière de rayonner. Grâce, là, si on parle de Jean Renard, grâce au talent de Jean Renard, qui est l'un de nos plus grands compositeurs français en matière de variété. Voilà.
Qu'est-ce qui t'a fait tomber dedans quand tu étais petite ?
Alors, c'est assez drôle parce que quand j'étais de toute petite, j'ai toujours voulu être chanteuse. On disait toujours, moi je chantais tout le temps et je disais, quand je serai grande, je veux être chanteuse. Et évidemment, ça s'est amplifié et j'ai voulu devenir artiste-interprète. Et j'ai couru les maisons de disques, j'ai fait tout ce que j'ai pu, envoyer des cassettes, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes. C'était aussi... peut-être que maintenant c'est différent, je ne sais pas. Mais c'était assez difficile malgré tout. Et j'ai commencé, pour ainsi dire, par être danseuse dans les émissions de variété. Parce que c'était plus simple, parce que je dansais aussi, je faisais du modern jazz. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer les émissions de variété de Guy Lux à l'époque. Donc là, j'ai rencontré tous les artistes que j'aimais, que ce soit Sylvie Vartan, Johnny et tous les autres de cette époque. Et donc, mais sans délaisser pour autant cette envie de devenir chanteuse. Et j'ai eu la chance de pouvoir signer 2 45 tours avec la maison de disques Pathé Marconi. Donc voilà. Et en fait, j'ai toujours été dans le milieu artistique. Ça, c'est un milieu qui me passionne. Pourquoi la légèreté, la musique, enfin tout ce qu'on avait à cette époque. Et ça, pour moi, c'était formidable, quoi, puisque déjà, de nature, je suis quelqu'un de joyeux. Donc voilà comment je suis tombée là-dedans. Et donc, j'ai fait ces 2 45 tours, soyons honnêtes, qui n'ont laissé de souvenir à personne, mais qui, malgré tout, vous pouvez retrouver sur Google, hein, puisque si on tape Monia, le pont de la Marie-Jeanne, ou Monia, je t'aime trop, on les retrouve. Et ensuite, en fait, j'ai eu le privilège de travailler avec un grand, grand compositeur. Et effectivement, je vais vous dire quelque chose, mon envie de chanter était toujours là, mais j'ai réfléchi, parce que quand on voit travailler Johnny Hallyday, là, on se dit, ah non, je pourrais jamais faire ça, c'est pas possible. Le talent et le travail, le talent déjà inné, alors que moi, j'avais une voix qui avait une tessiture de voix assez limitée, ça, c'était entre Bardot, Sylvie Vartan, voilà. Et effectivement, là, quand j'ai eu ce privilège d'être un témoin, de voir ces gens travailler, ces artistes, j'étais un témoin de l'ombre. Voilà, donc c'est comme ça que je suis tombée dans cet univers.
Alors, je rappelle aux auditeurs que Madonna a démarré comme ça avec Patrick Hernandez, et puis tout le monde ne le sait pas, Whitney Houston a démarré avec sa maman sur une chanson en face B de Michael Zeiger Band. Tout le monde connaît Let's Go Chant, mais tout le monde ne connaît pas Life is a Party, et c'est comme ça que Whitney Houston s'est mise dedans. À quel moment tu te dis, plutôt que de continuer à chanter, de continuer à danser, je deviens assistante?
Je me dis ça parce que déjà, j'ai le privilège de commencer à travailler là-dedans. Donc, c'est une famille. Je me retrouve dans une famille artistique où je vais dire, Johnny, je dormais sous le même toit quand on était par exemple, quand il a commencé à faire son premier spectacle ou le second, je ne sais plus, au Palais des Sports. Et c'était... L'ange aux yeux de laser, c'était avant, c'était en 79. Ensuite, en 82, je crois, 81 ou 82, il prépare un grand show. Là, j'ai plus le titre, mais ça va me revenir. Donc, au Palais des Sports à Paris. Et là... pour les répétitions, Johnny loue la villa du 15 de France au Touquet. Donc j'ai le privilège d'être là aussi, comme le staff, comme les musiciens et tout, d'être dans cette villa, de manger à la table de Johnny, de dormir sous le même toit et tout. Et alors, je vais vous dire ce qui me frappait, moi, c'est que tout le monde me disait « Mais tu te rends compte? Tu es quand même avec Johnny et tout ». Je vais vous dire honnêtement, je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte parce que ce n'était pas mon idole. J'aimais ce qu'il faisait, mais ce n'était pas mon idole au point d'être... Et tout me semblait normal alors que j'avais une vingtaine d'années. Et je me retrouve à regarder l'idole des jeunes vivre. Et ce qui m'a toujours frappée vraiment, vraiment, c'est que... J'ai une anecdote que je vais vous raconter après. C'est qu'il était tellement, tellement simple et d'une gentillesse, mais réellement, franchement, j'ai été très, très frappée du personnage. Bon, c'est vrai que je ressentais aussi qu'il avait des énergies, pas comme tout le monde. C'est vrai que moi, je suis une perchée et que ça, j'ai ce... spirituellement, je suis capable quand même de capter les ondes. Bon, maintenant... beaucoup plus qu'avant, mais déjà quand j'étais jeune, c'était déjà le cas. Et je me suis rendu compte que ce personnage d'une simplicité incroyable, par exemple, ça me frappait. Il se levait, bon, pas le matin, parce que Johnny, lui, il se réveillait à 1h de l'après-midi. Hein. C'est normal, puisqu'il ne dormait pas de la nuit. Mais il se lève, et ça m'avait fait une drôle de sensation. C'est que moi, quand j'étais enfant, quand on se levait, on embrassait les parents pour leur dire bonjour et tout. Eh bien, Johnny se lève. Et c'est, enfin, moi, je me souviens que ce n'est pas moi qui suis allée. Il arrive le dernier. C'est lui qui disait bonjour à tout le monde. Enfin, et ça m'a frappée. Je me disais, mais c'est quand même lui, la star. J'avais quand même conscience. Et là, dans l'univers normal, il n'y a pas de star. Il était... Enfin, il était extraordinaire et pour moi, il est toujours là. Donc voilà. Et c'est pour dire que j'ai vu des choses extraordinaires et j'ai vu ce personnage et j'ai pu voir des choses, mais vraiment, vraiment extraordinaires. Et je comprenais que tous les gens étaient très impressionnés par lui, ceux qui travaillaient avec lui. Donc j'ai une anecdote, donc je ne sais pas si elle sera dedans. Mais donc un jour, justement, au Touquet, il y a son photographe Tony Frank, son photographe attitré, qui avait tout préparé dans le jardin parce qu'il devait faire la couverture de VSD. Et Johnny tenait absolument à ce que ce soit son photographe qui fasse la photo. Et cette photo, c'était en fait le survivant. C'était le Palais des Sports, le spectacle, c'était le survivant. Et Johnny avait un casque incroyable où on ne voyait que le bleu de ses yeux, puisque c'était un espèce de casque qui cachait tout son visage, un intégral en fait. Et il est là et il est en train de... Normalement, donc Tony attend que Johnny se réveille. Et il attend. Et Johnny ne se réveille pas de suite, mais il a placé les parapluies pour l'éclairage, tout. Il faisait un temps magnifique. Et à un moment donné, il fait, bon, il me manque, je ne sais pas si c'était une pellicule ou je ne me souviens plus. Et il dit, bon, je m'en vais. Je ne pense pas que Johnny va être levé avant que j'arrive. Je fais vite, mais au cas où, bah, dites-lui que j'en ai pas pour longtemps. À peine Tony, qui attendait déjà depuis des heures, s'en va, que Johnny se lève. Et il arrive et on est tous à cette grande table, je me souviens. Tout le monde était attablé et Johnny arrive. Et bon, tout le monde se tait, etc. Et moi, c'est mes débuts. Donc, je regarde, je suis étonnée. Je vois que tout le monde se tait. Ah, Johnny, bonjour, tout ça. Sauf que Johnny pose une question d'un seul coup. Et il demande où est Tony ? Parce qu'il sait très bien qu'il doit faire la photo. Et là, il y a quelqu'un qui lui répond, ben, il vient de partir chercher, je ne sais plus si c'est une pellicule ou quelque chose. Et là, Johnny fait, ouais, il fait genre qu'il est en colère. Et là, Johnny est en colère, mais tout le monde s'en va. Tout le monde quitte la table. Johnny s'assoit au bout de la table. La seule personne qui reste avec des yeux pas possibles et qui se dit quand même, parce que moi, je ne faisais pas de différence, et je le regardais. Mais tout le monde est parti, je me retrouve en face de lui et il me regarde et il lit dans mes yeux, je devais avoir l'expression de quand même il exagère parce que le pauvre Tony vient de partir et tout. Et donc il me regarde, il me fait un clin d'œil et il me fait son plus beau sourire. Et là je comprends le message, ne t'inquiète pas, je ne suis pas en colère, ils veulent de la star, je fais la star. Et là, je me suis dit, ah, ok, Johnny n'est pas... Mais tout le monde est parti. Donc ça, c'est une anecdote qui m'est restée. Et je me suis dit, quelquefois, il devait jouer un rôle, parce qu'en fait, il était extrêmement simple, extrêmement bon, drôle aussi. Et aussi, c'était quelqu'un qui scannait tout le monde. Si on était là, il était capable de dire, cette personne-là, c'est ça, mais il ne se trompait jamais. Je me souviens de choses qu'il disait. On avait des personnages qui arrivaient pour le rencontrer et tout ça. Et évidemment, les gens s'imposaient avec des gestes, promettaient des choses et tout. Et une fois que la personne était partie, Johnny disait, lui, c'est un moulin à vent. Et il avait raison, parce qu'il n'y avait aucune promesse de tenue. Donc là, je me suis un peu étendue sur Johnny, que j'ai beaucoup aimé, et pour dire que c'était vraiment un personnage, je comprends ses fans, je comprends les gens qui l'ont capté, tous ses fans qui lui ont été fidèles autant d'années, mais il est réellement le Johnny qui chante l'amour tout le temps, qui chante le « Que je t'aime », il correspond exactement à ses chansons. Donc voilà, je suis désolée, je suis partie ailleurs.
Alors, ce qui est bien, c'est que tu parles de Johnny. Il y a bien d'autres artistes, bien d'autres stars de l'époque en air que tu as pratiqué. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de mettre en lumière les petites fourmis, les étoiles de l'ombre, qui est une série que tu as lancée ?
Bah, tout à fait, parce que en fait, quand on est dans l'ombre, on voit des choses. Et je me disais, moi, j'aime beaucoup les biographies. J'aime savoir ce qu'étaient les gens, parce qu'avant d'arriver à être un artiste ou quelqu'un de connu ou quoi, mais les gens ne se doutent pas du parcours derrière, tout ce qui se passe derrière. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. En fait, ce qui m'a toujours intéressée, et comme j'ai eu ce privilège d'être et de voir ce que faisaient les gens, grâce au fait de travailler auprès, dans l'ombre de Jean Renard, j'ai pu voir le parcours et la difficulté. Jean Renard est un compositeur très prolifique, très talentueux, comme dit Sylvie Vartan et comme disent tous ces artistes. Mais le travail et le personnage derrière, si on part de là, et moi c'est ça qui m'intéressait, c'est de montrer au grand public ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire avant d'être celui qui a inondé de son talent et qui a permis à ces grandes stars d'avoir des tubes, de concilier les deux talents, le talent de la star et son talent à lui de compositeur ou de parolier parfois. Je me disais, mais le grand public devrait savoir, c'est un film derrière. Le personnage qui rame pendant 7 ans, qui chante ses chansons parce que personne n'en veut, et qui un jour se retrouve parce qu'on fait des rencontres incroyables. Mais tous, vous comme moi, on peut faire de grandes choses. Je me suis dit, il faudrait montrer aux jeunes et aux gens que tout est possible dans la vie, tout est réalisable. C'est-à-dire qu'on peut partir de rien, mais quand on a une idée, quand on aime quelque chose, même si on vous dit, mais attends, mais tu rêves, mais c'est pas possible, mais non, mais tu y arriveras jamais. Moi, je leur dis, je vais vous montrer que c'est possible. Je vais vous montrer des personnages. On n'aurait pas parié un copec sur eux, et eux-mêmes d'ailleurs. Mais après, avec la foi et la passion et l'amour qu'on a de quelque chose qu'on aimerait faire, on peut aller très très loin. Donc, et le fait d'avoir vu ça, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, j'étais dans la musique, mais j'ai eu beaucoup de chance de, à un moment donné, de rencontrer un personnage aussi incroyable, atypique aussi, qui est devenu le producteur et qui m'a permis, quelqu'un qui a aussi du talent et qui était dans l'ombre, et qui m'a permis de réaliser en fait ces étoiles de l'ombre. Quand je l'ai rencontré, je savais par son parcours que il était capable de, si on arrivait à l'emmener, si quelque chose lui plaisait. Donc, le métier de producteur, bon, j'ai ramé pendant 1 an pour lui dire est-ce qu'on pourrait pas, tu pourrais pas monter une boîte de production avec moi, et je lui ai expliqué. Pendant 1 an, il m'a dit non. Qu'est-ce que je vais faire dans ce métier? Qu'est-ce que c'est que producteur? Mais j'ai ramé pendant 1 an. Jusqu'au jour où ça devait être le timing divin, où il m'a dit oui. Je l'ai emmené voir tous ces personnages et tout, je l'ai emmené dans le milieu et tout. Et là, il m'a dit, ok, je te suis et on va faire de grandes choses. Mais surtout, c'est que faire un documentaire, ça, un film ou un documentaire, ça coûte énormément d'argent. Et quand on arrive dans ce monde et qu'on n'a pas de nom, on n'est personne. Personne ne nous fait confiance, personne ne... C'est pas dans notre ligne éditoriale, c'est pas... voilà, on a tout entendu. Et lui, il a pris des risques énormes, donc je veux lui rendre hommage. Il a dit, ok, je te suis. Donc il a payé. Le producteur, c'est celui qui paye, qui trouve l'argent. Et grâce à lui, on a commencé à faire les documentaires. On s'est partagé le travail, puisque lui aussi, il a coécrit avec moi le documentaire. On a pu faire ces étoiles de l'ombre. Il m'a permis de mettre en lumière ces gens. Il a trouvé que c'était une idée géniale. Il a dit allons-y. Donc on a commencé par les deux premiers et par Jean Renard, qu'il a rencontré, qu'il a vu et qui l'a passionné d'ailleurs. Donc voilà comment sont nées les étoiles de l'ombre. Vraiment parler de ces gens qui sont dans l'ombre. Et alors Jean Renard, ce qui était étonnant, c'est par exemple de vous raconter que comment l'inspiration lui est venue d'un tube. C'était ça le truc. C'est que ça ne vient pas comme ça. Donc il y a ces fameuses connexions. En fait, tous les artistes, tous les gens qui font, que ce soit des peintres, que ce soit des musiciens, les artistes, pour moi, ils sont connectés quelque part. Donc Jean Renard est très connecté, ça j'ai pu m'en rendre compte. Il est, par exemple, pour la chanson La Marisa de Sylvie Vartan, elle lui est venue, il l'explique très bien lui-même dans le documentaire. Il est en balade en mer et la nuit, la brume tombe. Il est avec un ami sur un bateau et il se retrouve en mer. Et pour revenir, ils n'y arrivent plus. Il est obligé de lancer une pierre attachée pour voir s'il se rapprochait du fond ou s'il s'éloignait de la côte. Parce qu'ils étaient sur un bateau, une espèce de barque, je ne sais pas. Et chaque fois qu'il envoyait la pierre pour voir s'il se rapprochait du rivage, il entendait l'eau qui tombait et qui faisait un bruit spécial. Et là, lui est arrivé en fait les premières notes de la marimba. Et il l'explique très 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 bien dans ce documentaire. Et on a des anecdotes incroyables, mais racontées par lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui raconte, c'est la personnalité qui raconte. Et les artistes qui ont été exceptionnels et qui nous ont dit « Mais attendez, vous faites un documentaire sur Jean Renard, mais on va témoigner. On va témoigner de ce qu'on connaît de lui. » Et ils ont appris des choses qu'ils ne connaissaient pas grâce au documentaire. Voilà comment est née Les Étoiles de l'Ombre et pourquoi je me suis dirigée là-dessus. Mettre des gens dans la lumière, ça c'est formidable.
La question n'a rien de méchant, mais j'ai l'impression que tu parles beaucoup d'hier, aujourd'hui et demain. Est-ce que c'est encore possible d'avoir ce type d'étoile ?
Je pense que oui. C'est vrai que je parle beaucoup dans ces documentaires. Évidemment, je mets en avant les connaissances que j'ai, évidemment. Mais si on veut parler d'aujourd'hui, alors aujourd'hui, grâce à Jean-François Cyrana, donc le producteur et réalisateur, nous écrivons des choses d'aujourd'hui. Mais ce message d'hier, c'est pour l'apporter aux gens d'aujourd'hui, à nos jeunes d'aujourd'hui. On va vous montrer un exemple des anciens pour faire aujourd'hui ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Vous avez envie de chanter, vous avez envie de composer, c'est possible. Regardez, en fait, quand on regarde hier, on met le rétroviseur, ça a été possible pour ceux d'hier, c'est possible pour ceux d'aujourd'hui.
Est-ce que c'est plus facile ? Parce que hier, il n'y avait que 3 chaînes de télévision, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Avec tout ce qui est YouTube, TikTok, Instagram et tout, c'est plus facile aujourd'hui ?
Eh bien, je suis persuadée que c'est plus facile aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était très difficile. Et je pense qu'il suffit que quelqu'un soit passionné, il se met sur les réseaux, et j'ai vu ça, c'est extraordinaire. Pour nos jeunes, de pouvoir se mettre sur un réseau, balancer une chanson ou balancer une idée et que d'un seul coup, elle touche énormément de monde. Donc, à mon avis, c'est plus facile aujourd'hui. Si quelqu'un est passionné et a envie de passer un message, il y a beau y avoir tellement de chaînes de télévision. J'ai remarqué que ce soit les journalistes ou quoi, ils s'intéressaient beaucoup au réseau et à ce qui se passait. Donc, je pense qu'à ce qui se passe ailleurs, que sur les chaînes déjà installées, tout ça. Et pareil pour la radio. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, Alain, tu en as un exemple aussi. Et ça, c'est formidable, parce qu'il n'y a pas besoin forcément des grandes radios et des grands médias. Il y a des médias intermédiaires qui sont extraordinaires et qui donnent la parole, qui nous donnent la parole à nous. Nous, on n'a pas forcément les grands médias pour ce qu'on fait. Et pourtant, on fait des choses aussi qui méritent peut-être aussi d'être vues et entendues.
Je ne sais pas ce que signifient les grands médias. Moi, je me rappelle que l'attaché de presse de la ville d'Annecy m'avait dit « Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands médias, il y a des médias. Et tout le monde mérite d'exister. » Et puis après, les grands médias étaient tout petits auparavant et ils ont bien évolué. Moi, j'aime bien rappeler que M. Bouygues, quand il a racheté TF1, au début, c'était juste un maçon. Voilà. Et il s'est quand même pris la première télévision d'Europe et tout. Y a des personnages qui t'inspirent plus que d'autres ?
Des personnages. Alors, des personnages quoi, publics ou des personnages... C'est vrai que j'ai...
Les Étoiles de l'Ombre.
Les Étoiles de l'Ombre, alors oui, tu vas me dire que je retourne dans le passé, puisque c'est mon répertoire du passé.
Pour nous, ce n'est pas autant le passé que ça, quand même. C'est encore d'actualité pour nous.
Alors, justement, ce qui est extraordinaire, c'est que nos jeunes de 20 ans, alors, et nous, on l'a vécu, c'est-à-dire qu'on est allé tourner avec, d'ailleurs, notre équipe, ce sont des jeunes, parce qu'il faut que les jeunes trouvent leur place. Donc, dans la technique et tout, nous avons beaucoup de jeunes, des jeunes de 20 ans, 25 ans, qui sortent d'ailleurs aussi dans ce vivier de la Bastide Rouge où nous sommes. Et on a été très étonnés quand on est allé, par exemple, on était en tournée, que ce soit pour les Étoiles de l'ombre Jean Renard ou les Étoiles de l'ombre Michel Mallory, et on est allé tourner en Corse, partout, rencontrer les artistes, eh bien, leur playlist, ce sont des chansons des années 80. Donc, on n'a jamais été... C'est nous qui étions surpris en disant, mais attendez, c'est pas forcément les chansons d'aujourd'hui, ça. Et vous écoutez ça, vous ? Donc là, on s'est rendu compte que hier et aujourd'hui, bah, y a pas de frontières. Quand on voit ça, moi je le vois même chez mon fils. Donc je trouve ça extraordinaire et on est très contents. Et bah, avec aussi nos jeunes de maintenant, que ce soit les artistes Louane et d'autres, c'est formidable. C'est bien de pas mettre de barrières et de faire un vivier avec tout ça, quoi, de mélanger hier et aujourd'hui. Et en fait, on sait très bien que seul le présent compte, parce qu'hier c'est passé, demain nous n'y sommes pas encore, et on est aujourd'hui. Le présent, c'est le présent qui compte.
Bon, je suis un peu ennuyé maintenant, parce que là tu m'as mis l'eau à la bouche. Comment je fais pour regarder les documentaires ?
Alors, les documentaires, c'est vrai, c'est une très bonne question. Actuellement, on a quand même cette visibilité pour nous qui nous fait très plaisir, c'est qu'on a été suivi et soutenu par TV5 Monde. TV5 Monde, n'importe qui peut mettre TV5 Monde sur l'ordinateur en tapant la chaîne. Et TV5 Monde fait tous les pays francophones. On a été ravis, là, c'était le festival... De Cannes, c'est le festival de Cannes, et on a un producteur qui nous a dit qui est installé en Asie, et j'ai vu vos Étoiles de l'ombre. On a dit c'est pas possible. Si, moi je regarde TV5 Monde, et on a vu Jean Renard, on a vu Michel Mallory, et franchement on a été très impressionnés, très étonnés de savoir que vous parliez de gens qui normalement sont derrière, mais ils ont regardé le documentaire jusqu'au bout. Alors on a aussi Télépaès qui est en Corse, qui le passe encore régulièrement, c'est la télévision corse. On sait que la télé suisse aussi le passe, la télévision cannoise aussi, donc là j'ai pas les dates, mais pour l'instant... On n'est pas projeté dans nos télévisions. On est en pourparler, on n'est pas sur France Télévisions, alors que tout le monde dit que c'est un programme France Télévisions. Mais on ne désespère pas de passer sur nos chaînes nationales. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Donc, vous allez peut-être bientôt le voir sur les plateformes, mais bon, on vous le dira à ce moment-là. Voilà.
Super, on pourrait se régaler à continuer pendant des heures et des heures, tellement c'est un régal que d'échanger avec toi. Ton rêve ?
Alors, mon rêve, mon rêve déjà, ce serait que on soit en paix les uns avec les autres, qu'on ne soit pas dans le jugement, qu'il y a de la place pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes goûts, on n'aime pas tous les mêmes choses, mais on pourrait s'aimer dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que on peut aimer son prochain, on peut se rencontrer sans avoir tout. Mon rêve, oui, en fait, c'est cette violence qui me chagrine. J'ai l'impression, alors tu vas me dire, je parle encore du passé, j'ai l'impression, alors que je pense que la violence a toujours existé, mais qu'elle était moins prenante que maintenant, c'est-à-dire que maintenant en boucle on nous donne la pire des choses. Alors oui, mon rêve en fait ce serait de partager avec tout le monde, et je vois que sur les réseaux ça existe, des informations joyeuses, donner la parole à des gens, comme tu le fais d'ailleurs, intéresser les gens à des choses qu'on voit pas forcément sur dont on parle pas, mais vraiment, ce serait qu'on puisse apaiser ce monde, que ce monde soit apaisé, parce que on est, ce que je dis souvent, on n'est que de passage. On arrive sur une... Pour moi, la vie, c'est une pièce de théâtre. On va se retrouver sur la scène. On a des choses à y faire, des rôles à partager les uns les autres, et en profiter pendant qu'on est sur cette scène. Mais pourquoi pas partager des belles choses, de l'amour, encore une fois, il y a de la place pour tout le monde, et ne pas attendre la sortie pour dire parce que c'est comme ça que ça se passe, une fois que les gens s'en vont, leur trouver du talent, comme dirait une certaine chanson de François Valéry. N'attendons pas que la mort nous donne du talent. Donc, nous trouve du talent. Donc, essayons peut-être que tu peux m'aider, Alain, d'être très modéré en tout et partagé, d'être dans le partage. Et si, avec les auditeurs et à tous les niveaux, je ne sais pas, là, c'est vraiment... Voilà, ça, c'est un de mes rêves. Parce que une fois qu'on est dans ce rêve-là, où tout le monde s'entend, tout le monde se respecte, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde s'aime. À mon avis, on peut faire de ce monde quelque chose de formidable. Et pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc voilà, c'est ça mon rêve. Mon véritable rêve, c'est ça. Après, le producteur va dire « Oui, mais il faudrait aussi qu'on parle de nous et que nos créations puissent fonctionner. Ça fait partie de nos rêves. » Mais oui, voilà, mon rêve véritable, c'est que tout fonctionne dans ce monde qui soit beaucoup plus apaisé. Voilà.
Mon rêve à moi, c'est de fêter ce 6e anniversaire de Direct en Jeu. Je rappelle que la radio a été lancée le 12 mai 2019 sur les marches du Palais de Festival. Il n'y avait pas encore le tapis rouge. Mon rêve, c'est de vivre encore aujourd'hui des moments comme ce qu'on vient de vivre et de lancer une interview qui se transforme à nouveau en émission spéciale parce que c'est un vrai bonheur que d'échanger avec toi. Je voulais te remercier vraiment pour ce moment que tu as passé.
C'est surtout moi qui te remercie, c'est nous qui te remercions parce que nous donner la parole, c'est un vrai plaisir. C'est la manière dont tu... Bah, je pense qu'on est complémentaires dans nos idées, dans cette façon de faire. Et si cette radio a 6 ans, c'est pas pour rien. Et longue vie et bon anniversaire à cette radio magnifique et à toi Alain qui nous donne la parole et franchement on est ravis et merci à tous les auditeurs qui soutiennent cette radio depuis 6 ans puisque aujourd'hui on peut parler à ton micro.
Merci à toi.